RCF.
Nous refermons nos entretiens sur le thème de l'humilité avec vous, frère Benoît Steindart. Dans votre journal de l'humilité paru chez Salvator, vous associez humilité et douceur, humilité et grandeur, humilité et silence, humilité et patience. C'est intéressant, ces couples qui sont souvent paradoxaux. Par exemple, humilité et grandeur, vous distinguez vraie et fausse grandeur. Quelle est la différence entre les deux?
C'est un des très beaux textes de Louis Lavelle qui m'ont alimenté pendant des années d'ailleurs.
Qui est philosophe. Hein?
Qui est un philosophe mort en 1951, au siècle dernier. C'est le maître à penser qui m'a nourri depuis ma jeunesse et qui continue à me nourrir presque quotidiennement. Et chez lui, grandeur et humilité ne sont pas opposées, mais s'appellent l'un l'autre. Et il y a un auteur qui est plus proche de un peu tout le monde, Saint Jean 23, dans son journal de l'âme, réfléchit tout le temps sur ces deux, la grandeur et l'humilité. Et son secrétaire, Capoville, a dit quelque part, « Oh, Jean 23, vous avez été humble dans votre grandeur et vous avez été grand dans votre humilité. »
Grand dans votre humilité et humble dans la grandeur. Alors, on va revenir là-dessus.
Oui.
Qu'est-ce que ça nous dit, ça?
L'humble a un sens de la grandeur. Et s'il n'était humble sans avoir le sens de la grandeur, est-ce qu'il serait vraiment humble? Et quelqu'un de grand qui ne fait qu'écraser les autres, est-ce qu'il est vraiment grand? La pleine grandeur consiste à savoir donner à chacun sa place et à être même en mesure d'une touche vraie à l'égard de ceux qui seraient les plus petits ou les moins considérés, parfois même les plus méprisés. À ce moment-là, il y a toute la grandeur.
Donc les puissants, là, ont à vivre ce qu'a vécu ou incarné Jean 23, à savoir la grandeur du poste et l'humilité.
Oui. Absolument.
Un service.
Un service. Et une proximité. Et certains sont même chez les spirituels, des grands maîtres. J'ai vu Sophronie, quand il avait passé 90 ans, c'est un moine orthodoxe russe qui a vécu au Mont Athos, qui a édité les écrits du saint Starets Silouan. Et à la fin de sa vie, je l'ai vu tout voûté avec deux cannes sortant de chez lui. Mais il était entouré par une vraie vénération. Mais tout ce qu'il disait, même les petites blagues, etc., réconciliait et réjouissait. Et il était une sommité, une grandeur reconnue par tout le monde, mais il était aussi une proximité et un enjouement qui était de la plus grande humilité.
Mais on le voit sur d'autres figures, des femmes, des hommes qui ont une sorte d'autorité naturelle, mais une douceur, une humilité, hein, ça transparaît sur leur visage. Alors je pensais aussi à frère Roger qui incarnait ça.
Absolument. Alors, Jean Vanier, pour moi chaque fois une émotion qui me fait pleurer, la qualité de présence de Jean Vanier. Ouais.
Vous parlez aussi de la douceur et de la force. Être doux, c'est aussi être fort. Comment être fort en étant doux?
Les deux mots se trouvent l'un à côté de l'autre dans la Bible, quand il est question de la sagesse. La grande sagesse qui entre et qui fait de nous des amis de Dieu et des prophètes, comme il est dit au chapitre 7 du livre de la sagesse, juste après, « Suaviter ac fortiter », avec douceur et avec force, elle règne. Elle règne sur l'ensemble du créé. Et donc, si elle n'était que douce, elle pourrait devenir doucereuse, elle pourrait devenir mièvre. Mais elle est douce et forte. Si elle n'était que forte, elle pourrait écraser. Et c'est cette conjonction, cette espèce de yin-yang sapientiel qui l'affecte, qui rend l'homme vraiment comme il doit être. Et ici, il s'agit d'une qualité divine qui traverse le créé et qui traverse le cœur du sage, du prophète et de l'ami de Dieu.
Oui, vous dites que la douceur précède la force.
De fait, elle est là, juste avant. Lavelle dit d'ailleurs, si je veux obtenir la douceur avec des efforts, je la chasse. Donc la douceur est plus forte que toute autre force sous le soleil. Et rejoindre cela, une force douce, n'est justement pas le produit, je veux dire, à la force des poignets, comme on dit.
Oui, on retrouve ça dans les psaumes, notamment au psaume 32. Le salut d'un roi n'est pas dans son armée, ni la victoire d'un guerrier dans sa force. Donc, c'est intéressant parce que on pourrait s'appuyer, on pourrait avoir la tentation dans sa vie personnelle, mais aussi dans la vie de l'Église.
Absolument.
D'avoir ce rapport-là à la force.
Mais tous ceux qui sont en position de pouvoir risquent d'être drogués par le pouvoir et d'être complètement incapables et de douceur et d'humilité.
Frère Benoît Standart, nous avons parlé du couple humilité et grandeur, de l'humilité et de la douceur. Vous citez un autre couple intéressant, humilité et patience. Être patient, c'est savoir accueillir le réel tel qu'il est, négatif, positif. Justement, ça me fait penser à ces moines dont vous parliez là dans vos monastères qui accueillent tout finalement, tel que ça se présente.
Oui, j'ai un très grand attrait pour la vertu de la patience à l'école de Saint Paul. Saint Paul est un docteur de la charité et de l'amour. Mais jamais, ou rarement, sous sa plume, l'amour, c'est faire quelque chose pour autrui. Altruisme ou générosité, c'est pas exclu. Mais c'est pas ça, d'abord, l'amour. L'amour est d'abord une passivité, une patience. Et dans cette patience, il y a deux choses. Il y a la possibilité de Dieu d'entrer dans ma patience, de me rejoindre. Si je suis trop généreux, trop actif, trop altruiste, Dieu dit, c'est bien, fais ça, c'est ton affaire. Tandis que pour Saint Paul, tout, absolument toute attitude, que ce soit la prière, que ce soit, ce n'est plus moi qui vis, qui prie, qui agit, c'est le Christ qui vit en moi. Et donc, une passivité est indispensable pour que le Christ, dans ma propre pauvreté, vienne développer sa charité et sa patience. Et donc la charité est d'abord longanime, patiente, et est en final tout. Elle supporte tout, elle croit tout, elle espère tout, elle gère tout. Et donc c'est à cette école-là que de la patience, je fais une vertu absolument essentielle et liée à l'humilité, parce que je vais laisser Dieu agir au fond de moi.
Et quand on a envie de bien faire, quand on est actif, quand on a un tempérament très passionné, c'est une ascèse.
Oui, et Paul était un passionné, moi je le suis aussi. Et donc, c'est des écolages. Mais je n'oublie pas un frère qui était plutôt un flegmatique, qui disait « Le cœur de la patience est encore de la patience. » Or, chez nous, souvent, la patience, ça va jusqu'à un certain point. Et puis, qu'est-ce qu'il y a derrière? De la patience. Et certains ont une grande patience, mais derrière, il y a une forte impatience. Et si vous allez trop loin, vous en attrapez toute son impatience en pleine figure. Eh bien, non. Dans un vrai patient, l'arrière-fond de sa patience est encore de la patience. À ce moment-là, quelque chose a été réglé. Cet instinct de conservation, cette force vitale première a été lâchée jusqu'au bout. Et à ce moment-là, la patience n'est plus que patience.
Un dernier couple que nous allons décrypter avec vous, c'est humilité et silence. Est-ce que le silence nous aide à être plus humbles?
C'est en Orient, à l'extrême Orient, que j'ai reçu les plus grandes leçons de silence, de dépouillement, d'attitude physique, d'immobilité, de retrouver au fond de soi la respiration qui expire. Respirer pour eux, c'est d'abord pleinement expirer. Et donc s'abandonner, et donc rejoindre le plus humble. Non pas une respiration des épaules où il y a le petit moi, ni des côtes où il y a le moi social, mais dans une respiration abdominale où on presse avec ses muscles abdominaux contre la colonne vertébrale et se vider jusqu'au bout. Et à ce moment-là, dès que je suis conscient de ma respiration, je suis silencieux. Sinon, je suis encore toujours dans ma tête. Et si j'arrive jusqu'au bout de cette respiration, je découvre que mon inspiration m'est donnée et que le fond de l'être est don, est grâce. Et respirer, c'est d'abord quelque chose qui m'est donné plus que quelque chose qui serait prestatif. Et ça, c'est de l'humilité. Découvrir que tout est grâce à travers une école du silence. Et donc, le grand silence est une mort. Une mort au petit moi, à mes soucis, à ma préoccupation, à tout ce que je trouve tellement important et qui me glorifie ou qui me prend au sérieux. Dans le silence, j'abandonne tout ça, Et je rejoins, alors, humblement aussi, avec cette position physique où mon corps est à même le sol, je rejoins cette humilité qui va devenir le lieu où Dieu peut entrer, Dieu peut respirer, Dieu peut agir. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, devient une réalité.
Un grand merci à vous. Frère Benoît Standard, d'avoir pris ce temps, d'avoir quitté quelques heures votre ermitage pour venir nous parler de l'humilité. Je recommande la lecture de votre livre « Journal de l'humilité ». Il est paru chez Salvator. Merci également à Pierre-Henri Paget à la réalisation technique.